et je recevrai Sophie Reculin pour en traiter. Il est 11h sur France Culture et vous retrouvez maintenant Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.
France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Caput, ceux-là même qui affirmaient il y a quelques années que l'Allemagne faisait tout mieux que quiconque, recourent volontiers à ce terme brutal, caput, pour résumer l'état dans lequel s'englurait aujourd'hui notre grand voisin. Crise politique à ciel ouvert avec l'éclatement de la cohésion gouvernementale le jour même de l'annonce de la victoire de Donald Trump, une campagne électorale qui commence, des élections fin février et ensuite plusieurs semaines sans doute pour mettre au point une nouvelle coalition. Marasme économique, 2 ans de récession, un budget à boucler dans la douleur et les piliers de la puissance industrielle allemande, l'automobile, la chimie, fragilisés par leur dépendance à la Chine. Le virage annoncé par la prochaine administration américaine, dont les nominations provoquent quelques frissons, menace les deux principes fondateurs qui ont construit la prospérité outre-Rhin, une économie mondiale ouverte au libre-échange et une sécurité nationale garantie par l'OTAN et Washington. Il ne s'agit pas ce matin de nous livrer à un exercice de schadenfreude pour nous consoler de nos propres difficultés, ce serait malvenu, mais bien au contraire de voir à quel point la crise allemande nous concerne, affaiblit l'Europe en cette période critique et inquiète l'Ukraine. Premier dirigeant occidental à rompre ainsi l'isolement du Kremlin depuis 2 ans, le chancelier Scholz a téléphoné hier à Vladimir Poutine pour discuter, je cite, « d'une paix juste et durable ». Kiev dénonce une tentative d'apaisement en ses dépens. L'Ukraine va-t-elle devenir un enjeu dans la campagne électorale allemande ? L'opinion publique est d'humeur sombre. Comment comprendre l'évolution du paysage et les rapports de force politique ? Qui est ce Friedrich Merz, le dirigeant conservateur qui a le vent en poupe ? Irait-il jusqu'à proposer un changement constitutionnel pour permettre à l'Allemagne de s'endetter davantage et financer ainsi sa défense, ses infrastructures et relancer ses industries ? Quelle perspective en particulier pour le secteur automobile au regard de la situation en France ? Eh bien, c'est ce que nous allons comprendre ce matin grâce à vous, Claire de Mesmer. Vous êtes professeure à la chaire Alfred Grosser de Sciences Po Paris, chercheuse au CERI et au centre Marc Bloch à Berlin. Ulrike Franke, du Conseil européen des relations internationales, merci d'être avec nous. Ludovic Subran, vous êtes chef économiste du groupe Alliance et senior fellow à Harvard. Frédéric Fréry, vous enseignez à l'ESCP Business School et aussi à Centrale Supélec. Claire de Mesmer, commencez s'il vous plaît par nous expliquer comment ce gouvernement à Berlin est en mode survie en quelque sorte et pourquoi un vote de confiance dans un mois tout juste le 16 décembre ?
Oui, alors tout d'abord je suis très heureuse que nous ne soyons pas dans un exercice de Schadenfreude comme vous l'avez annoncé. Parce que ce qui se passe en Allemagne concerne aussi la France et concerne l'Europe dans son ensemble. Donc, c'est pas du tout une bonne nouvelle de voir que l'Allemagne est aujourd'hui dans une crise multiple. Vous l'avez dit dans votre introduction, une crise économique, politique, sociétale, parce que l'ambiance est vraiment morose, avec un pessimisme marqué, y compris chez les jeunes. On a aujourd'hui affaire à une crise budgétaire, mauvaise situation budgétaire. C'est ça qui a conduit à l'éclatement de la coalition tricolore. Et puis, on a une montée des extrêmes, avec notamment à l'extrême droite, une extrême droite très dure, hein, l'alternative pour l'Allemagne, l'AfD, qui a gagné des élections dans les Länder il y a quelques semaines, qui est en position de force. L'arrivée d'un nouveau parti de gauche radicale, l'alliance de Sahra Wagenknecht, le BSW, et tout ça brouille les pistes du jeu politique tel qu'on le connaissait aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on en est où ? Eh bien, on en est justement avec un vote de confiance qui est que posera le chancelier fédéral le 16 décembre. Il va solliciter le vote de confiance. C'est une procédure, il faut le savoir, qui est rare en Allemagne. Elle a eu lieu pour l'instant seulement 5 fois dans l'histoire de la République fédérale. Et la dernière fois, c'était en 2005. C'est Gerhard Schröder qui a sollicité le vote de confiance, qui a perdu. Ça a ouvert la voie à l'ère Angela Merkel. Donc, on voit bien que c'est pas du tout anodin ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment en situation de crise.
Mais c'est purement formel, en quelque sorte.
Alors, oui, pour l'instant, rien n'est encore joué, même si on sait exactement ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que Scholz, le chancelier fédéral, n'aura pas de majorité au Bundestag, hein, puisque son parti, le SPD, le Parti social-démocrate et les Verts, qui forment aujourd'hui un gouvernement minoritaire, puisque le Parti libéral a été évincé
sorti
du gouvernement. Il est sorti malgré lui. Donc Scholz n'obtiendra pas de majorité lors du vote du 16 décembre. Alors le président fédéral va dissoudre le Bundestag et il y aura des élections qui sont programmées aujourd'hui, qui sont programmées pour février.
Le 23 février. Et donc Claire, cela veut dire qu'on va voir une Allemagne quasiment hors jeu parce que après ces élections du 23 février, il y aura, et c'est la tradition, des semaines de négociations pour former une nouvelle coalition.
Oui, alors Christine, je vous trouve bien optimiste. Des semaines, ce serait plutôt une bonne nouvelle. On a l'habitude en Allemagne d'avoir des mois de négociations pour former une coalition et pour s'entendre sur un programme de gouvernement. Et ça, c'est évidemment très long. Là, aujourd'hui, la campagne a commencé. Le fait que Scholz se positionne, notamment qu'il téléphone à Poutine, on y reviendra certainement, c'est un marqueur de campagne électorale. Donc, il va se passer très, très peu de choses jusque fin février. Donc, pour l'intégration européenne, pour le positionnement de l'Europe, on aura une Allemagne qui va être occupée avec ses affaires intérieures, qui n'est pas une bonne nouvelle, évidemment, surtout avec l'élection de Trump, où on a besoin d'un positionnement. Et puis ensuite, février, mars, et on ne sait pas jusqu'à quand, en tout cas, ça devrait durer le temps de former une coalition. Aujourd'hui, d'après les sondages, on peut imaginer avoir une grande coalition, donc menée par les chrétiens démocrates, la CDU, en coopération avec le SPD de Scholz, justement. Mais on ne sait même pas si ces deux partis, qui sont les deux grands partis traditionnels de l'Allemagne, on ne sait même pas si ces deux partis seront capables de former, d'avoir une majorité. Mmh. Donc peut-être qu'il faudra avoir une autre coalition possible. Donc vous voyez que tout est ouvert, hein, et que surtout ça prend du temps et qu'il y a énormément d'incertitudes et que tout ça alimente encore un petit peu plus les doutes, les inquiétudes et justement le pessimisme et la morosité dont je parlais il y a quelques minutes.
Ludovic, ce pessimisme, cette morosité sont évidemment entretenues par la récession, cette deuxième année de récession. Pourquoi une telle crise ?
C'est les causes de la double récession allemande, hein, sont multiples. C'est le seul grand pays aujourd'hui qui accuse 2 années consécutives de zéro croissance. Bien sûr, la crise énergétique, bien sûr, la crise en Chine et donc les exportations chinoises, mais aussi ce frein constitutionnel à l'endettement, hein, donc la loi fondamentale allemande, hein, ce fameux article 109 qui plafonne l'endettement, le déficit structurel à 0,35% du PIB et qui est la cause, en effet, le péché originel de cette explosion de la coalition, parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre. Donc l'Allemagne fait face aujourd'hui à une quatrième peine qui est ce choc de défiance. C'est-à-dire que là, on va avoir 2 trimestres consécutifs sans visibilité pour la consommation, l'investissement des ménages, des entreprises. Et donc, on a vraiment une situation assez catastrophique économiquement. Alors, ça se sent pas, parce que c'est pas une récession au sens les gens sont appauvris. Mais quand vous vous promenez en Allemagne, vous voyez des magasins qui ferment à 15h30 par faute de main d'œuvre. Vous voyez des entreprises qui vous disent, en fait, on va aller investir aux États-Unis parce que c'est un environnement où on a de la prévisibilité sur les prix de l'électricité. Et vous avez surtout un taux record d'épargne, 18%. C'est quand même incroyable. Et tout ça fait que l'Allemagne va très mal économiquement.
Et donc, cela veut dire que la première économie d'Europe fonctionne au ralenti, Ludovic.
Oui, elle est à l'arrêt, elle est surtout sans solution, parce qu'en fait, même si aujourd'hui on dépensait beaucoup plus d'argent en Allemagne, on aurait des contraintes de capacité, c'est ce qu'il faut comprendre. Et donc c'est vraiment une sortie structurelle de cette ornière qu'il faut viser, et c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et donc, voilà, le choix politique propose deux chemins, deux voies de passage. Mais c'est vrai que pour l'Europe, c'est une très mauvaise nouvelle, pour des pays qui sont très endettés comme la France ou l'Italie, parce que l'Allemagne était une ancre. Donc en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Schadenfreude, malheureusement, parce que l'Allemagne à zéro croissance, ça engendre énormément de sujets sur la lutte conjointe pour financer les transitions, financer la guerre, lutter contre l'inflation. Il y a tout un jeu de collaboration qui est un peu mis à mal si une des grandes puissances européennes va si mal.
Ulrike Franke, l'Allemagne a été jusqu'ici le deuxième soutien de l'Ukraine en guerre, en termes de fourniture d'armement en particulier. Et donc, ce coup de téléphone fracassant du chancelier Scholz hier à Vladimir Poutine, le premier dirigeant occidental en office, si j'ose dire, au pouvoir. On sait que Donald Trump s'est entretenu avec Vladimir Poutine, mais il n'est pas encore à la Maison-Blanche. Donc Scholz appelle Poutine et pendant une heure, ils discutent de ce que pourrait être en fait une paix, en tout cas sinon une trêve à cette guerre. Est-ce que cela veut dire que le chancelier, qui est lui-même candidat à sa réélection, veut faire de l'Ukraine un enjeu électoral dans sa campagne ?
Donc, à mon avis, c'est ce coup de téléphone est certainement en lien avec la campagne d'élection d'Olaf Scholz, qui veut se montrer comme le chancelier de la paix. C'est aussi en lien avec l'élection de Donald Trump, parce qu'on sait bien qu'une fois Trump entre la Maison Blanche, la position américaine va changer. Je ne suis pas parmi ceux qui croient que ce coup de téléphone a été une très grande faute. On est bien d'accord que là, en ce moment, il y a peu d'options et peu d'options bien. Zelensky et l'Ukraine ont bien entendu été informés avant. Scholz et Zelensky ont parlé avant. Bien entendu, Zelensky ne voulait pas ce coup de téléphone, mais à mon avis, ça ne casse pas vraiment l'isolation de Poutine dans le monde occidental. Et je dis bien au monde occidental parce que la Russie et Poutine n'est pas du tout isolé dans le reste du monde, si vous voulez. Donc, bien entendu, ce qui aurait été peut-être plus utile, c'est s'il y aurait eu des demandes concrètes, une sorte de si vous faites ça ou continuez à faire ça, nous, on va faire ceci. Donc, par exemple, les livraisons de Taurus, on en parle beaucoup. Donc, les missiles de longue portée. Et d'ailleurs, Friedrich Merz, le candidat du CDU, donc le compétiteur principal d'Olaf Scholz, a déjà dit que c'est justement ça qu'il ferait. Donc, il donnerait une sorte d'ultimatum à Poutine pour dire si vous continuez cette guerre de cette manière, par exemple, en attaquant des structures civiles, on va livrer les Taurus. Mais bon, donc là, je crois qu'on est dans une situation où il n'y a pas vraiment d'options positives. Oui, c'est une sorte de... C'est une tentative d'Olaf Scholz de se montrer davantage comme chancelier de paix, comme quelqu'un qui veut finir avec cette guerre. Mais il faut quand même voir que l'Allemagne, tous les pays du milieu démocratique, et ce sont ceux qui vont être aussi dans le nouveau gouvernement, dans le gouvernement prochain, ils se positionnent quand même tous en soutenant l'Ukraine. Donc voilà, je ne crois pas que ce coup de téléphone est une grande catastrophe, mais peut-être plus de coordination aurait été utile.
Après avoir parlé à Vladimir Poutine, le chancelier a appelé le Premier ministre polonais. Il semble qu'il n'a pas appelé le président français et donc il n'y avait pas véritablement, Ulrike, de coordination européenne par rapport à cette démarche.
Oui, j'ai eu la même impression et d'ailleurs j'ai surtout l'impression que l'axe franco-allemand dans ce moment ne marche pas très bien ou marche pas du tout et c'est un vrai problème. Après, bien entendu, si Scholz serait coordonné avec la Pologne et la France, la Grande-Bretagne, etc., tous les Européens, ça aurait été beaucoup plus un coup de téléphone qui brise l'isolation. Donc si on fait oui. ça, et c'est une possibilité, dans ce cas, il faut vraiment avoir une position qui va au-delà de « bon, on va parler à Poutine juste pour voir ce qu'il dit ». Donc ça pourrait être une tentative, mais dans ce cas, si on se met bien d'accord au niveau européen, il faut qu'il y aura des vraies demandes, des vraies annonces, etc. Donc on n'a pas encore ça, mais vous avez tout à fait raison quand vous dites qu'il n'y a pas assez de coordination au niveau européen. Il y a plein de petites essais, des petits groupes qui se mettent ensemble, une fois avec l'Allemagne, une fois sans l'Allemagne, avec la France, sans la Pologne, etc. etc. Et c'est pas vraiment utile, d'ailleurs aussi intérieurement pour la politique européenne.
Dans cette campagne électorale allemande qui démarre, est-ce que l'autre guerre qui préoccupe tout le monde, c'est-à-dire la guerre à Gaza, au Liban, est-ce que le soutien traditionnel de l'Allemagne fédérale à Israël peut entrer en ligne de compte dans cette campagne?
Ça m'étonnerait. En fait, je crois que personne ne veut en toucher parce que le sujet d'Israël est un sujet tellement sensible en Allemagne. Bien entendu, il y a eu aussi certaines démonstrations, etc., manifestations, mais a priori, c'est un sujet tellement sensible qu'il y a très peu à gagner. Donc déjà, la guerre en Ukraine, c'est pas forcément le premier sujet de campagne. On parle plus de migration, changement climatique, questions économiques. On vient d'en parler. On va certainement encore en parler. Donc il y a plus de questions, disons, d'intérieur. Et donc le sujet de Gaza, le sujet d'Israël, je crois qu'il y a très peu d'hommes et femmes politiques qui veulent en toucher. Et c'est tellement sensible que ça m'étonnerait si ça devient un vrai sujet de campagne, parce qu'il y a vraiment rien à gagner là-dedans.
Claire de Mesmer, qui est donc ce Friedrich Merz dont Ulrike vient de citer le nom, qui est donc le patron de la CDU, du Parti chrétien-démocrate, qui n'a jamais été ministre? C'était d'ailleurs sa rancœur vis-à-vis d'Angela Merkel qui le tenait soigneusement à l'écart. Qui est-il?
Oui, Angela Merkel l'a toujours vu comme un concurrent. Elle a toujours, elle a réussi à le garder à distance, en effet, ce Friedrich Merz. Mais il a réussi à devenir le candidat officiel de la CDU, donc de l'Union chrétienne démocrate, pour la prochaine course à la chancellerie. Alors c'est un vrai conservateur, un homme politique de droite, enfin conservateur au sens allemand du terme. Donc il se positionne sur les questions d'immigration, sur les questions économiques, sur les questions de sécurité, très à droite. Et c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait résumer son programme: renforcer la sécurité intérieure et extérieure, limiter l'immigration. Il a des paroles vraiment dures sur l'immigration, sur la politique d'asile, et améliorer la compétitivité économique de l'Allemagne, de l'Europe.
Et c'est un très bon orateur, semble-t-il, ce qui contraste avec un chancelier qui a été surnommé, je crois, Scholzomat, tellement il est ennuyeux.
Oui, alors c'est vrai que Olaf Scholz du SPD, l'actuel chancelier, n'est pas particulièrement connu pour être un brillant orateur, en effet. D'ailleurs, Angela Merkel ne l'était pas, donc il y a quand même une sorte de continuité de la politique allemande. Oui, alors Merz, c'est un bon orateur, c'est aussi quelqu'un qui a surpris il y a quelques jours en se disant favorable, ou en tout cas ouvert à des discussions sur une réforme du fameux frein à la dette dont on a déjà parlé. Qui est donc inscrit dans la Constitution de l'Allemagne, dans la loi fondamentale, et qui limite le déficit budgétaire à 0,35% du PIB. Donc ça, c'est quelque chose qui est très compliqué aujourd'hui dans une situation budgétaire qui est mauvaise, hein, pour l'Allemagne. Et Merz s'est toujours dit opposé à une réforme en disant, voilà, ça c'est quelque chose qui est secret, on n'y touche pas, c'est extrêmement important, l'orthodoxie budgétaire, c'est vertueux. Et aujourd'hui, alors qu'il est relativement probable qu'il devienne le prochain chancelier d'ici assez peu de temps, il revient justement sur cette position en se disant prêt à en discuter sous certaines conditions, hein, bien sûr. Assouplir ce frein à la dette pour des investissements structurels, alors surtout pas pour la consommation, surtout pas pour la politique sociale. Mais il a montré là une forme de pragmatisme qui est assez intéressant à observer justement quand on voit le contexte politique de l'Allemagne. Et puis, peut-être un point important aussi pour nous, pour la France, pour l'Europe, c'est que Merz, c'est un pro-européen. C'est un pro-européen qui a été socialisé politiquement sous Helmut Kohl, qui a été député européen à 34 ans. Là, son premier voyage à l'étranger en tant que candidat à la chancellerie, c'était Bruxelles. Donc, on voit qu'il y a cette affirmation européenne. Mais Merz, c'est un pro-européen de droite. Ce qui veut dire que même s'il est favorable ou ouvert, encore une fois, ouvert à une discussion sur une réforme du frein à la dette, il est strict sur l'orthodoxie budgétaire. Il est vraiment méfiant vis-à-vis de ce qui est considéré comme un grand laxisme budgétaire dans d'autres pays d'Europe, en particulier en France. Et il exclut absolument une dette européenne commune, un mécanisme.
Donc la recommandation de Mario Draghi dans ce rapport qui a fait grand bruit en septembre dernier, donc d'un nouvel emprunt commun européen pour que l'Europe entière relance son économie, avec Merz qui a des chances, donc de fortes chances d'être le prochain chancelier, il n'en serait pas question, Claire.
Non, parce que là, c'est vu comme inciter aussi les autres pays européens, d'autres pays européens justement perçus comme laxistes, à ne pas faire leur devoir. Donc, j'espère que vous avez entendu les guillemets. C'est dans une situation politique allemande tendue, avec justement des partis d'extrême, enfin un parti d'extrême droite et une gauche radicale qui gagne du terrain. C'est un sujet qui est extrêmement compliqué. Donc, l'Allemagne en général est plutôt réservée vis-à-vis de ce genre de mécanisme, mais alors là, dans la situation actuelle, encore plus. Alors, par contre, on voit Merz pro-européen sur les questions de politique étrangère, de sécurité. Comme l'a dit Ulrike tout à l'heure, il est pour aider l'Ukraine, livrer des armes, donc les fameux missiles Taurus que Scholz exclut de livrer à l'Ukraine. Merz le souhaite. Il est également sur les questions d'asile. Il demande à exporter les procédures d'asile européennes vers des pays tiers. Donc on voit bien que là encore, c'est une position très à droite qui est certes, alors européenne ou pas, mais en tout cas qui n'est pas du tout sur les valeurs libérales qu'on connaît aujourd'hui de la part du SPD, du Parti social-démocrate et des Verts.
Ludovic Sebran, sur le plan économique, encore une fois, et c'est évidemment majeur pour toutes les économies européennes, la France en tête, mais aussi l'Italie, qui dépend très fortement de la croissance allemande, on voit que cette hantise de l'endettement, je crois d'ailleurs que c'est le même mot en allemand, l'endettement et la culpabilité, c'est le même mot. On a vu à quel point, pourtant, les secteurs phares, la chimie en particulier, l'action de Bayer qui a dégringolé en bourse, je crois, au début de cette semaine, pourquoi est-ce que ces secteurs clés sont si mal en point ?
En fait, c'est pas dans ce cas-ci, c'est pas principalement l'endettement, hein, c'est vraiment la crise énergétique, hein, c'est prix d'électricité qui sont 30% plus élevés que nos concurrents, c'est-à-dire que les États-Unis ou que la Chine, ça plombe les marges de secteurs qui n'ont peut-être pas fait les bons choix. Alors, c'est des choix sur les 4 dernières années, hein, donc la gestion de la crise Covid et de son rebond. Mais là où c'est lié à l'endettement, c'est le mix énergétique de l'Allemagne. Donc, le fait que les infrastructures énergétiques, notamment tout ce qui est la distribution énergétique, est dans une situation catastrophique. En Allemagne, il y a même des blagues un peu sur les infrastructures et le fait que les incitations à maintenir les infrastructures sont inexistantes pour le secteur privé. C'est le cas du rail, par exemple. Et donc, on attend qu'elles se soient complètement décaties pour que les subventions publiques viennent et puis les retapent. Mais en fait, c'est déjà trop tard. Et donc, la chimie, l'auto, la construction, ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'emploi. Alors, les PDG de ces boîtes vont sur tous les médias nous dire c'est la faute de l'Europe, de la course à la soutenabilité. Mais derrière, ce qui se joue, c'est bien sûr la compétitivité, bien sûr la productivité. Et moi, personnellement, je pense, et c'est des discussions d'ailleurs que j'ai eues avec Friedrich Merz, que ce frein à l'endettement allemand a été une forme de contrainte additionnelle qui a peut-être joué au tiers ou peut-être à 40% pour la situation dans laquelle est l'industrie aujourd'hui, via le déficit infrastructure, via aussi, à mon avis, le déficit sur le plan de l'investissement, des incitations pour certains secteurs clés, ces fameuses politiques industrielles qu'on voit un peu partout dans les pays européens et au niveau de l'Europe. Ce sera intéressant de voir ce que Merz pense justement de ces verticales très chères à notre ancien commissaire Thierry Breton. Et donc, pour ces secteurs-là, aujourd'hui se joue l'emploi, mais comme je le disais précédemment, on ne va pas résoudre le problème juste en dépensant davantage. Et donc, il faudra aussi un choc de simplification. Il y a l'IFO, un institut bavarois, a sorti hier une étude qui montre que le coût de la bureaucratie en Allemagne, c'est 146 milliards. Et donc, c'est là-dessus qu'il va falloir jouer. Et c'est un travail de longue haleine. Et les gens, en voyant Merz, se rappellent ce qui s'est passé en 2002-2007 en Allemagne, c'est-à-dire 5 années où on a eu zéro croissance, mais on a eu une vague de compétitivité, c'est les fameuses réformes Hartz de 2005. Et donc, il va falloir en même temps qu'on fait des efforts sur l'endettement public, les incitations. On va devoir faire d'autres choses pour résoudre ces autres sujets d'appauvrissement structurel de l'Allemagne autour de la simplification de la bureaucratie, du modèle social, du financement de la vieillesse, du grand âge, etc. Donc, c'est pas que une histoire de dette. C'est aussi une histoire d'un pays qui a peut-être pas fait assez de réformes pendant les 10 ou 15 dernières années, qui se trouve aujourd'hui au pied du mur.
On a vu aussi, Ludovic, une envolée des grèves, une espèce, de comportement à la française, dans les chemins de fer, la Lufthansa. Pourtant, la tradition que l'on en vit tellement de cette forme de partenariat constant entre les syndicats et le patronat continue de fonctionner. Il y a même eu, je crois, un accord sur une hausse de salaire récemment entre le très puissant syndicat IG Metall et le secteur de l'électrométallurgie allemande.
Oui, c'est ce fameux Mitbestimmung, c'est le nom en allemand pour parler de la codétermination où les syndicats sont présents aux instances de gouvernance des entreprises. Donc, ce serait l'équivalent de nos conseils d'administration à hauteur du tiers. C'est quelque chose de très important dans l'ordolibéralisme allemand, c'est-à-dire la pensée qui façonne d'ailleurs la pensée de Merz, cette idée que chacun a son rôle et que notamment les entreprises doivent, avec leurs salariés, décider de leurs mesures de compétitivité et de productivité. Et c'est vrai que ce qui est difficile, c'est de comprendre ces grèves au même moment où on a eu... vous parliez de l'accord sur d'IG Metall, c'est 5,5% d'augmentation des salaires sur 25 mois, donc en gros c'est 3% et 2,5% sur les deux prochaines années, après des augmentations qui ont presque suivi l'inflation. Donc on est dans un moment où les revenus disponibles venant du travail des ouvriers allemands va plutôt aller plus vite et mieux que l'inflation. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant. Donc ça montre qu'il y a deux peurs qui s'installent, qui ne sont pas juste une pression sur les pouvoirs d'achat et les revenus disponibles. La peur de demain, c'est-à-dire la peur de la perte de l'emploi, la recrudescence, la remontée du chômage d'un côté. Et ça, on le sent sur la transition énergétique et numérique. C'est des choses dont les syndicats se sont, pour lesquelles les syndicats ont été très vocaux ces derniers mois. Et la deuxième, c'est justement ce modèle social. On entend beaucoup de patrons aller sur toutes les antennes européenne et puis dire que les Allemands ne travaillent pas assez, qu'ils ont perdu ce goût de l'effort. Et dans les chiffres, c'est vrai qu'on a, par exemple, une augmentation très forte des jours de maladie. L'Allemagne, les jours de maladie depuis 2019 ont augmenté de 45%. Donc, on a aujourd'hui, en moyenne, plus de 20 jours de maladie pour un Allemand dans sa vie professionnelle sur une année. Et donc, il y a ça aussi, il y a cette idée que le capital va plutôt pas mal, les entreprises ont servi des dividendes à leurs actionnaires et qu'on tape de nouveau sur les salariés. Donc, ce n'est pas une question de temps de pouvoir d'achat ou d'augmentation de salaire qu'une question de bénéfices, retraite, santé et de visibilité sur l'emploi futur.
Frédéric Fréry, ce qui a véritablement créé une onde de choc, c'est l'annonce par Volkswagen de la fermeture possible de 3 usines et de licenciements massifs. Volkswagen, c'est le symbole même de l'économie et de la prospérité allemande.
Oui, absolument. C'est le symbole de la prospérité allemande, mais c'est aussi malheureusement le symbole des différentes difficultés qu'on vient d'évoquer. Il faut voir que Volkswagen, donc, c'est la plus grosse entreprise allemande en nombre de salariés. Ils ont plus de 650 000 salariés. C'est le deuxième constructeur automobile mondial. Et de manière un peu résumée, en fait, le cœur de leur stratégie, de leur modèle économique, depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, ça consistait, en gros, à vendre aux Chinois de la qualité allemande, mais fabriquée grâce à du gaz russe. Et donc là, on comprend tout de suite qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'effectivement, le gaz russe n'étant plus là, il y a une inflation extrêmement forte des coûts énergétiques. Le marché chinois, lui, de son côté, a tendance à se fermer aux automobiles occidentales et étrangères en règle générale. Vous ajoutez à ça la terrible histoire du scandale du Dieselgate, qui a fait quand même que des logiciels truqueurs avaient été installés sur les voitures pour leur faire passer des tests de pollution, alors qu'elles polluaient beaucoup plus que ce qui était annoncé officiellement. Ça a quand même coûté 32 milliards d'euros à Volkswagen, mais des dommages, et c'est pas encore terminé. Vous ajoutez encore à ça que Volkswagen est maintenant l'entreprise cotée au monde la plus endettée, avec plus de 200 milliards de dettes, ce qui correspond à peu près à l'endettement d'un pays comme l'Afrique du Sud. Et on voit que cette accumulation de soucis, en fait, cette accumulation de problèmes, fait que le modèle tel qu'il existait, qui est un modèle qui a été extrêmement réussi, qui a permis à cette entreprise de devenir, à un moment, la plus grosse entreprise automobile du monde, ce modèle est grippé. Et on ne sait pas encore très très bien comment est-ce qu'ils vont pouvoir le dégripper par rapport à la manière qu'ils ont utilisé historiquement de construire leur stratégie.
Et il y a des négociations très difficiles en cours avec les syndicats.
Bien sûr, bien sûr. Parce que une nouvelle fois, on est dans le système qui a été décrit juste avant, donc le système de capitalisme rhénan, dans lequel vous êtes censé avoir une intervention forte des syndicats dans les instances de gouvernance. Il faut voir aussi qu'il y a l'intervention également des collectivités locales, qui est souvent forte aussi. Pour l'Allemagne, il y a 20% des actions qui sont possédées par le land dans lequel se trouve son siège. Et tout ça rend quand même les modes de décision complexes et pas toujours dans le sens qui serait nécessaire pour maintenir une santé de l'entreprise. 200 milliards de dettes est l'entreprise la plus endettée au monde, c'est un signe inquiétant. Le modèle, en fait, qui a été instauré par l'Allemagne, dans ce capitalisme rhénan notamment, c'était que le financement des entreprises ne se fait pas majoritairement par la bourse, mais se fait plutôt par des banques, et des banques qui, quelquefois, font partie du même groupe. Alors, ça peut être très intéressant pour investir à long terme, ce qu'ils ont fait. Ça peut être très intéressant pour avoir des diversifications importante que la bourse n'aime pas trop en général, mais que les banques peuvent autoriser. En revanche, il y a une petite conséquence, c'est qu'il y a peut-être moins de discipline dans les décisions d'investissement. Car vous n'avez pas un regard extérieur qui va dire « Ah ben non, cette décision, elle n'est peut-être pas excellente. »
Et qu'en est-il des autres grandes marques allemandes, que ce soit Mercedes, que ce soit BMW, qui accélère, semble-t-il, sur l'électrique, alors que tout le secteur allemand...
Comme on voit ici...
Oui, pardon. Allez-y, pardon.
Oui, quand en revanche nous sommes dans une situation plus difficile et qui se tend comme nous le voyons à l'heure actuelle, ça peut bloquer un certain nombre de choses.
Alors justement, les autres grandes marques, je répète ma question, donc Mercedes, BMW, qui semblent accélérer pied au plancher sur l'électrique, c'est pas la même culture industrielle.
Alors, c'est pas exactement la même chose. Elles ont été historiquement, depuis le départ, positionnées beaucoup plus haut quand même, hein, donc avec des volumes qui sont inférieurs et des marges qui sont supérieures. Mais elles aussi, leurs principaux marchés cibles, c'était quand même des marchés, le marché chinois. Et donc, elles sont également dans des difficultés qui sont loin d'être négligeables. Le problème qui se pose effectivement, et sur lequel je suis sûr que les constructeurs automobiles allemands vont continuer à protester, c'est la décision du Parlement européen. Donc, bien sûr, d'interdire les véhicules à moteur à essence à partir de 2035, parce que le cœur fondamental de la compétence technique des constructeurs allemands, c'est le moteur. C'est le traitement du méthane, on pourrait dire. Et quand on passe à l'électrique, ça change tout, parce que le moteur électrique n'est pas tellement quelque chose de différenciant en soi. En revanche, toute la partie logicielle qui permet de l'optimiser, ça, en revanche, c'est une compétence qu'ils n'ont historiquement pas vraiment développée. Du moins, pas tous à la même vitesse, et certains à relativement peu. Le fait de passer en gros du métal à l'informatique, au logiciel, c'est une transformation fondamentale en fait qu'ils ont à faire en interne et pour laquelle ils ont de vives difficultés. Et Volkswagen en particulier, on voit très bien qu'ils ont une grosse difficulté à passer à cette logique informatique qui n'est pas du tout dans leur culture historique et dans leurs compétences qui jusque-là les ont conduites au succès.
Ulrike Franke, on comprend que cette latonie relative de l'économie chinoise qui pénalise prioritairement l'Allemagne, qui Volkswagen et BASF en particulier dans la chimie, qui ont continué à investir massivement en Chine même, le chancelier allemand va rencontrer le président chinois mardi prochain à Rio dans le cadre du G20. Et hier, Xi Jinping a publié un communiqué pour dire qu'il y avait évidemment des préoccupations communes face à la prochaine administration Trump aux États-Unis pour essayer de freiner le protectionnisme, l'unilatéralisme. Est-ce que ça veut dire que du côté du chancelier allemand, il y aura une offensive de charme auprès du Chinois ?
Je dirais pas qu'il y aura une offensive de charme, mais c'est quand même vrai que une administration Trump aux États-Unis rend les choses beaucoup plus difficiles pour les Allemands et d'ailleurs pour les Européens de manière générale quant à la Chine, parce que l'Europe de toute façon se trouve déjà dans une situation difficile où ils essaient de trouver un équilibre entre la position américaine qui parle du decoupling, donc la rupture, si vous voulez, avec la Chine aussi au niveau économique, et ben justement les intérêts économiques, et c'est pas juste les intérêts économiques et business, c'est un vrai problème quand on vient de l'entendre. Si on perd ce lien avec la Chine, le modèle allemand ne marche plus. Enfin, déjà, il est en difficulté extrême. Et donc, il n'y aurait plus d'argent pour faire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, important pour mon secteur, il n'y aurait non plus d'argent pour assurer la défense non seulement de l'Ukraine, mais aussi de l'Allemagne et donc de l'Europe. Parce qu'on vient de parler du modèle allemand, donc on achète du gaz russe peu cher, on vend aux Chinois et on est protégé par les Américains. Et on voit bien que dans les trois cas, ça ne marche plus vraiment. Et donc, il y a une vraie question là sur ce même modèle allemand. Et donc, on peut pas vraiment se permettre de perdre tous en même temps. Donc, voilà, le chancelier Scholz, et d'ailleurs aussi le prochain chancelier, peu importe qui ça va être, se trouve dans une situation assez difficile avec la Chine où il y a, bien entendu, des intérêts sécuritaires, des intérêts avec les alliances États-Unis, etc., mais aussi des intérêts de business. Et donc, ça va être difficile de trouver le juste milieu.
Claire de Mesmer, évidemment, le choc de la victoire de Donald Trump a évidemment ébranlé toute l'Europe. Mais est-ce qu'il y a, en Allemagne en particulier, des inquiétudes spécifiques?
Oui, je pense en effet qu'il y a une spécificité allemande en la matière. Alors, l'Allemagne n'est pas mieux préparée que les autres pays européens à l'arrivée de Trump, alors que, bon, c'était quand même un scénario qui était probable. Mais en tout cas, les spécificités allemandes, je pense qu'il y en a trois. Elle est d'abord, on l'a entendu, sur la sécurité. L'Allemagne a toujours confié sa sécurité et a toujours perçu la sécurité européenne à travers le prisme transatlantique. Autrement dit, l'OTAN, les États-Unis seront toujours là pour nous défendre au cas où. Là, aujourd'hui, on voit bien qu'avec Trump, ça devient très, très compliqué et que l'Europe doit être en mesure d'assurer sa sécurité. Et l'Allemagne n'a pas ce logiciel-là, tel qu'on a en France. La deuxième spécificité allemande, le deuxième point vraiment d'inquiétude porte sur le commerce international, qui est au cœur du modèle économique de l'Allemagne, mais qui est aussi un pilier de sa stabilité sociétale, je dirais. Donc vraiment, tout la cohésion de la société repose aussi sur cette économie qui fonctionne grâce au commerce international. Et aujourd'hui, avec un Trump qui parle de protectionnisme, le retour aux subventions, tout ça, ça inquiète évidemment, parce qu'on fragilise encore un petit peu plus ce modèle. D'ailleurs, je fais une parenthèse sur un des grands sujets pour le franco-allemand, c'est le Mercosur, donc ce traité de commerce international où on n'est pas du tout d'accord et où il y a beaucoup d'incompréhension en Allemagne vis-à-vis du positionnement français.
Avec puis, évidemment les agriculteurs français qui sont en première ligne. Mais il y a aussi, Claire, l'inquiétude, sinon la frayeur vis-à-vis de l'ampleur de la désinformation que l'on a vue en œuvre dans cette campagne américaine et évidemment la fièvre populiste qui a saisi le camp trumpiste.
Tout à fait. Alors ça, c'est le troisième point d'inquiétude. Et la troisième, alors je ne sais pas si c'est une spécificité allemande, mais en tout cas, c'est très marqué en Allemagne, toute cette réflexion sur la désinformation, toute une réflexion sur la résilience de la démocratie allemande. Est-ce que la démocratie allemande est vraiment capable de résister à cette dynamique ? Et aujourd'hui, on a un projet de loi qui est en préparation, qui vise à protéger la Cour constitutionnelle, à la protéger des attaques des mouvements d'extrémisme, des partis autoritaires. Et là, on pense en particulier, mais pas seulement, à l'Alternative pour l'Allemagne, à l'AfD. Et aujourd'hui, on réfléchit à la manière d'éviter un scénario à la hongroise, avec un démantèlement de l'État de droit. Ça a été initié par des juristes, c'est repris sur le plan politique et ce projet de loi a des chances, a vraiment de grandes chances d'aboutir puisque c'est non seulement les trois partis qui formaient la coalition tricolore qui le poussent, mais aussi avec le soutien de la CDU, de l'Union chrétienne démocrate. Donc aujourd'hui, on a une vraie majorité au Bundestag pour ce genre de sujet. Donc on voit bien que l'élection de Trump joue comme un rôle de miroir pour l'Allemagne, parce que ce pays a fortement changé sur le plan politique, l'Allemagne a fortement changé, l'AfD est un parti jeune, pendant très longtemps l'extrême droite n'a pas été représentée au Bundestag, aujourd'hui l'AfD a un petit peu plus de 10 ans, elle s'est installée, elle gagne des parts de marché, si vous me permettez l'expression, sur le plan électoral. Donc tout ça, ça fragilise évidemment le fonctionnement de la démocratie allemande et on n'est pas habitué à ça. Donc encore un sujet d'inquiétude qui joue sur l'ambiance et qui joue sur, qui a évidemment un impact sur la stabilité au niveau et sur la cohésion de la société.
Et il semble clair que deux entrepreneurs de la tech allemande, à commencer par Christian Reber, celui qui avait vendu Wunderlist, je crois, à l'un des moguls américains, a exprimé sur les réseaux sociaux, il a été suivi, je crois, par un autre entrepreneur de la tech, l'idée qu'en fait, il faudrait que la CDU s'allie à l'AfD, donc en fait le modèle Elon Musk en quelque sorte.
Oui, alors ça, ce sont des voix qui sont très minoritaires. La question d'une alliance entre la CDU, parti de droite traditionnelle, et l'AfD, parti d'extrême droite, on l'entend un peut, c'est une question qui se pose un petit peu au niveau des Länder. Est-ce qu'on peut accepter un soutien de l'AFD à un gouvernement minoritaire ponctuellement sur certains sujets? Au niveau fédéral, ce n'est pas encore un vrai sujet, une vraie question. Aujourd'hui, la CDU exclut toute coopération avec l'AFD. Alors évidemment, il y a des voix qui s'élèvent ici et là, mais l'ensemble du parti et Merz notamment, même si sur certaines questions, notamment migratoires, il a une position très à droite, on n'est pas du tout dans une logique de coopération.
Frédéric Fréry, les États-Unis demeurent le premier marché des exportations allemandes, je crois à hauteur de quelques 20%. Et les ricanements de Donald Trump, qui déteste voir des Mercedes dans les rues de New York, qui se moque du Made in Germany, est-ce que cela ajoute aux inquiétudes et à la fragilisation dont vous nous expliquiez il y a quelques instants les causes?
Un mot tout d'abord sur l'origine du Made in Germany, qui est tout à fait intéressante. C'est qu'au départ, il faut savoir que le Made in Germany, c'est une marque d'infamie. C'est-à-dire que à la fin du 19e siècle, les industriels allemands vendaient en Grande-Bretagne des copies de produits industriels britanniques qui étaient de qualité assez médiocre et à vil prix. Et pour se défendre, les industriels britanniques ont exigé qu'il y ait marqué Made in Germany sur ces produits pour bien faire la différence avec leurs magnifiques produits à eux. Alors, évidemment, la qualité allemande a très très fortement progressé depuis, mais c'est un petit peu l'image qu'on avait en fait du Made in Japan dans les années 70 ou du Made in China il y a encore quelques années. Et donc, la roue tourne, et maintenant, c'est les Chinois qui produisent des produits de qualité. Alors, pour revenir sur votre question, bien sûr une fermeture et un isolationnisme américain serait une catastrophe, là encore, pour le modèle économique allemand. Spécifiquement sur l'automobile, une différence quand même importante, c'est que le gouvernement chinois lui-même maintenant dissuade très fortement ses dignitaires ou même sa population de rouler en voiture occidentale.
C'est mauvais pour Elon Musk.
Absolument.
Avec Tesla.
Absolument. Et on voit bien que, de toute façon, les marques locales chinoises sont en train de prendre des parts de marché à vitesse grand V. Il faut voir qu'il n'y a pas encore très très longtemps, il y a une quinzaine d'années, tout haut dignitaire du Parti communiste chinois se devait de rouler en Audi A6 noir avec vitres teintées. C'était un élément de sa réussite. Le parti a dit non, maintenant, il faut rouler chinois. Et la population suit l'exemple. Je ne pense pas qu'on verra la même chose aux États-Unis, parce que M. Trump n'a quand même pas la capacité à changer la perception des marques, je pense, de la population, et la qualité allemande est toujours appréciée aux États-Unis. Après, il y a un autre élément qu'il faut bien mettre en avant aussi, c'est que, bien sûr, la part exportation joue très fortement, mais bien évidemment, les Allemands, et Volkswagen en premier, mais les autres constructeurs aussi, ont construit des usines localement aux États-Unis. Et donc, c'est de la production locale, ça crée de l'emploi local, et à partir de là, je ne vois pas très bien pourquoi M. Trump serait contre.
Mais c'est aussi, Frédéric, ce que certains constructeurs français avaient entrepris de faire sans grand succès. Comment comparer, brièvement, on aura sûrement l'occasion d'en reparler ensemble, mais comment comparer la situation du secteur automobile français par rapport à l'allemand?
Ah, c'est très compliqué. C'est très compliqué, surtout qu'il faut se rappeler qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, le haut de gamme était plutôt tenu par la France. Et suite à la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une espèce de partage du monde, et les Allemands récupérant tout ce qui est production haut de gamme, pour faire simple, et les Français se concentrant sur des petites voitures populaires. Les petites voitures populaires, c'est plus difficile à exporter, les taux de marge sont plus faibles, donc vous avez plus de difficultés pour un pays de la taille des États-Unis de construire des usines locales, mais aussi des réseaux de distribution locaux, ce qui est en fait le vrai coût qu'il y a derrière. Et donc la difficulté n'est pas du tout la même. Maintenant, vous avez un groupe franco-italien qui est Stellantis et qui a racheté Chrysler, qui est un gros constructeur automobile. Donc il y a d'autres manières d'évoluer dans cette industrie, mais les difficultés auxquelles ont été confrontés les constructeurs de part et d'autre de la frontière sont pas exactement les mêmes. Nous, par exemple, le marché chinois, après plein plein de tentatives de nos constructeurs locaux. Ils l'ont finalement plus ou moins abandonné. Et maintenant, ils fonctionnent plutôt en partenariat. Et nous, on n'a jamais fabriqué des voitures avec du gaz russe. Donc, le problème énergétique n'est pas le même non plus.
Néanmoins, on subit de la même manière le choc des Chinois, enfin des voitures chinoises de bonne qualité et au prix attractif, et ce, avec évidemment la réglementation européenne, donc l'interdiction des moteurs thermiques à 2035.
Bien sûr, et les spécialistes du domaine, hein, de manière un peu raccourcie peut-être, hein, mais répètent à longueur de journée que si on maintient cette règle d'interdiction des véhicules thermiques en 2035, en gros, ça revient à donner les clés de l'industrie aux Chinois. Pour l'Europe. Alors c'est exagéré bien évidemment, parce qu'ils protègent leur position. Et il y aura certainement, là encore, des décisions de taxation des importations chinoises. Mais les Chinois, évidemment, produiront aussi en Europe pour éviter ces taxations. Mais c'est pas réglé. Et effectivement, vous avez parfaitement raison, la grande crainte, c'est que ce passage à l'électrique, en fait, ruine un siècle, en gros, d'accumulation d'expertise technique des constructeurs occidentaux, et effectivement, donne les clés aux Chinois pour pouvoir s'emparer de cette industrie.
Et avec évidemment énormément d'emplois à la clé. Ludovic Sebran, que faut-il attendre donc de ces quelques mois de relative inertie de l'Allemagne sur le plan européen, avec une économie encore une fois ralentie, ce qui impacte évidemment les économies voisines, que ce soit l'italienne en particulier ou la française. Comment est-ce que cette campagne électorale peut impacter en quelque sorte nos propres pays?
Le premier élément de réponse, c'est est-ce que Friedrich Merz est vraiment un Européen constructif? Est-ce qu'il ne va pas retomber dans les travers de la CDU, c'est-à-dire l'époque Wolfgang Schäuble, où on est beaucoup moins collaboratif avec des pays qui ont des déficits qui dérapent? C'est un sujet très à la mode en France, les dérapages budgétaires. Donc moi, j'attends de voir comment l'Allemagne de Friedrich Merz se positionne là-dessus. Parce que ça va, on n'a pas le temps d'être cannibale, on n'a pas le temps d'être de nouveau dans un nombrilisme exacerbé qui nuirait à notre continent puissance. À un moment, il faut se positionner sur les États-Unis et la Chine. Donc ça, c'est vraiment le premier sujet. Je crois que tout le monde va regarder ça. Les marchés, les Français, bien sûr les Allemands, les entreprises allemandes, multinationales, etc. Le deuxième sujet, c'est quelle verticale, quelle mission Scholz et Merz vont dessiner pour l'Allemagne, ces fameux light built, hein, c'est-à-dire est-ce qu'il faut quelque chose forcément sur la compétitivité énergétique, il faut forcément quelque chose sur le modèle social, et il faut forcément quelque chose sur cette histoire de... quel leadership pour l'Allemagne? Je crois que c'est clair qu'il écrivait dans Question internationale ce leadership inconfortable de l'Allemagne. C'est-à-dire, quelle politique économique étrangère l'Allemagne veut-elle mener dans un moment où son mercantilisme est un peu ébranlé, en fait, par le souverainisme français, et un peu ébranlé par le protectionnisme trumpien et, bien sûr, par l'hyper-subvention chinoise. C'est vraiment ces 3-4 sujets-là qui vont être importants, qui vont forcément poser... des questions auxquelles on n'a pas la réponse. Je parlais du choc de simplification et de bureaucratie, je parlais du modèle de mix énergétique. La CDU est persuadée qu'il n'y a pas besoin de mettre en place des capacités de renouvelables pour résoudre le problème d'approvisionnement électrique allemand. Il faut juste compter sur l'hydrogène. La CDU est persuadée qu'il faut que le modèle social retrouve sa concurrence, sa compétitivité comme les réformes Hartz de 2005, alors qu'on voit que le sujet de la transition démographique est beaucoup, beaucoup plus complexe et coûteux et explosif que ça. Donc c'est vrai qu'il va falloir passer du statut de commentateur à un statut de proposition de solution. Et je crois que ça va être très court, en fait, pour faire ça entre maintenant et le 23 février. Donc beaucoup d'incertitudes. Et donc un moment un peu pivot, avec un accord de coalition qui va certainement se jouer jusqu'à la fin mars ou à la fin avril. Mais je l'espère, on l'espère tous, une issue positive. Parce qu'encore une fois, on a besoin d'une une Allemagne qui sort de la récession, qui réinvestit dans son futur et qui ne devient pas l'Argentine. Parce qu'on a parlé des tensions commerciales, mais on pourrait parler des tensions financières. Aujourd'hui, les ménages aisés allemands sont les deuxièmes plus gros investisseurs dans la dette et les actions américaines. Donc en fait, l'épargne allemande s'en va de l'Allemagne. Et c'est ça le vrai sujet des 5 prochaines années sur l'Allemagne, réussir les transitions, réussir sa mue, son Verwandlung, de façon positive pour l'Allemagne et pour l'Europe.
Claire de Mesmer, on arrive à la conclusion de cette conversation. Angela Merkel doit publier ses mémoires. Quand est-ce que ce livre va sortir dans un tel climat en Allemagne, cette chancelière couverte de lauriers au moment de son départ et dont on découvre aujourd'hui l'héritage?
Oui, alors c'est l'image d'Angela Merkel a pas mal souffert ces derniers mois parce que depuis le début de la guerre d'agression russe en Ukraine, parce qu'elle est tenue pour responsable d'une politique très très souple vis-à-vis de la Russie, la question de la politique énergétique, donc justement le gaz russe bon marché dont on a beaucoup parlé, Angela Merkel a soutenu cette politique, il n'y a pas eu du tout de diversification, enfin très peu, et puis même si le renouvelable a été développé, et puis l'absence de réformes majeures. Donc l'image de Merkel entre le moment de son départ et puis aujourd'hui a vraiment beaucoup changé. Alors, je pense que ce qui est important, c'est de voir qu'on est vraiment, mais je pense qu'on l'a compris là, après 7 heures de discussion, on est à un moment pivot pour l'Allemagne avec des changements en profondeur. Parce qu'en fait, tous les points de repère de l'Allemagne sont en train de s'évanouir. La question justement de l'énergie bon marché, des exportations, la question de la sécurité. Et qui dit en profondeur dit dynamique de long terme. Ça va durer. L'Institut de l'économie allemande chiffre à 600 milliards d'euros sur 10 ans les besoins en investissement. Et tout ça, ça prend du temps. Renouveler des infrastructures qui ont été délaissées, les questions d'éducation, les questions de transport, enfin, il y a énormément de choses à faire. Et puis, le vieillissement de la population, on en a un petit peu parlé, mais c'est un des gros problèmes aussi de la société allemande, comment gérer cette transition démographique sur le plan économique, sur le plan de la société, sur le plan politique, le vivre ensemble, les questions migratoires. Enfin, la transition démographique a en fait un impact dans énormément de domaines. Et puis la question de la démocratie, j'y reviens, qui est vraiment, je pense, un point de vigilance avec la montée de l'AFD, avec les jeunes qui ont tendance à être plutôt ouverts. On a chez les jeunes, c'est l'AFD. Et le premier parti, ou en tout cas un parti qui attire énormément. Donc voilà, ça fait beaucoup de sujets. Et moi, je pense que, alors non seulement tout ça va avoir un impact très très important sur la scène européenne, puisqu'on n'a aucun pays d'Europe qui a autant d'influence que l'Allemagne sur l'Union européenne, mais je pense aussi, et là vous verrez, j'espère que vous apprécierez l'effort pour être optimiste, je pense que la sortie de crise pour l'Allemagne passe aussi par l'Europe, avec un positionnement commun sur justement les questions énergétiques, sécurité, défense, industrie, et qu'on peut évidemment, il y a énormément d'incertitudes, mais qu'avec un effort, un vrai effort et une vraie foi, on a parlé du leadership allemand, je pense que ça peut permettre vraiment d'améliorer les choses sur le plan allemand et justement sur le plan européen. Et donc on en profitera aussi en dehors de l'Allemagne.
Et vous qui passez professionnellement une semaine à Berlin et puis une semaine à Paris, vous êtes fort bien placé pour comparer sans arrêt les priorités, les motivations, l'ambiance en quelque sorte régnant dans nos deux pays. Je vous remercie tous les quatre. Claire, vous avez précisément signé un papier sur l'Allemagne en Europe, une approche plus géopolitique, un inconfortable leadership. Dans la revue, la dernière publication de la revue Questions internationales, à laquelle faisait référence Ludovic Subran. Ludovic, vous avez-vous signé avec Marcus Zimmer un ouvrage publié par Springer en 2023, Investing in a Changing Climate. Frédéric Fréry, vous avez traduit et vous signez l'adaptation française de Stratégique, qui en est à sa 13e édition, le manuel de stratégie d'entreprise le plus vendu dans le monde francophone. Ça a été publié aux éditions Personne en 2023. Je n'oublie pas Ulrike, bien sûr, Ulrike Franke, qui intervient dans un podcast allemand. Je vous avoue, Ulrike, que mon allemand est insuffisant pour le prononcer correctement. Sicherheitshalber. Donc un podcast très suivi sur les questions de sécurité et défense. Je remercie bien sûr, comme chaque samedi, Luc-Jean Reynaud à la réalisation ce matin, Guillaume Ficheux à la technique, Laura Dutèche-Pérez et la documentation de Radio France m'ont aidé à préparer cette émission. Et voici Carnet de santé avec Marina Carrère-Dancos. Très bon week-end et à samedi prochain.
Vous écoutez France Culture.
Le journaliste et dramaturge Armand Gatti aurait eu 100 ans en 2024. Sa vie et son œuvre théâtrale, littéraire, poétique sont une traversée de ce siècle.
Mais un couple, au fond, c'est une caserne. C'est inimaginable le nombre de gens qui s'y installent, y vivent pendant un an ou un jour, disparaissent, sont remplacés par d'autres, sans compter ceux qui y font carrière.
La scène imaginaire d'Armand Gatti, ce dimanche à 20h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Grand-mère, mange nos bonbons.
Durant le second conflit mondial,